un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Doris Elling, digne habitante de la petite station balnéaire de Bognor-Régis dans le Sussex, était-elle en train de boire une délicieuse tasse de thé accompagnée d'un crumpet lorsqu'elle reçut ce courrier de l'hôpital de Southampton ? L'histoire ne le dit pas. Mais la lettre est formelle et lui demande en sus d'apporter un échantillon d'urine pour confirmer sa grossesse afin d'organiser la naissance du bébé. Seulement voilà, Doris ne connaît pas cet hôpital, n'y est jamais allée et en plus, elle vient d'avoir 99 ans. Elle a déjà 20 petits-enfants et n'a pas été enceinte depuis 70 ans. Miracle britannique ou erreur administrative, à votre avis ? Quelque temps plus tard, l'administration de l'hôpital envoie un nouveau courrier pour s'excuser de l'anxiété inutile causée à cette femme et à ses proches, qui en vrai ont trouvé ça plutôt rigolo. Ce n'était peut-être pas le cas de cette autre habitante française de Guérande qui se découvre un jour légalement mariée à un parfait inconnu qui habite dans les Pyrénées-Orientales. Sur son extrait d'acte de naissance, il y a pourtant bien marqué la date de la cérémonie, le 14 février 2009, le lieu à Guérande et le nom de son mari. J'aurais bien aimé que l'histoire se finisse par une rencontre et une véritable histoire d'amour, mais la réalité est parfois beaucoup moins romanesque et ce sont surtout des tracas, des courriers et des formulaires de demande de rectification, des agents de l'état civil sympas ou bornés qu'elle a trouvés. Des embrouilles administratives donc, comme on en raconte aujourd'hui trois autres qui génèrent parfois beaucoup plus d'anxiété qu'on l'imagine, par Alain Lefkovitch.
Bien, je m'appelle Marie-Hélène Abron, j'ai 56 ans, j'habite à Soisy-sous-Montmorency, une petite commune du Val-d'Oise, et je suis à la fois journaliste, auteur et professeur. Une histoire qui m'a touchée et qui a touché également mes parents est une histoire qui pourrait se résumer par des dysfonctionnements administratifs de multiples natures. Le premier dysfonctionnement, c'est ma mère, donc, qui rentre à la clinique cardiologique de Saint-Denis le 11 septembre 2017 pour une opération de changement de valve cardiaque. A priori, tout doit bien se passer, même si ma mère a 80 ans à l'époque. Il s'avère que ma mère est opérée le 12 septembre 2017 et est décédée suite à cette opération. Le premier dysfonctionnement a tenu à la clinique qui a omis de prévenir la famille, de venir rapidement, donc en fait n'a pas respecté le protocole. C'est mon père, à force de téléphoner, mon père de 76 ans, à force de téléphoner pour avoir des nouvelles de ma mère, à qui on disait au téléphone qu'elle était en salle de réveil, a appris par le chirurgien en fait qu'elle était décédée 4 heures auparavant, par téléphone. Une erreur... un manque de compréhension entre les personnels qui m'a beaucoup choquée, qui a aussi énormément choqué mon père, puisqu'il croyait que ma mère était vivante au moment où il téléphonait. Donc j'ai envie de passer sur cet épisode dramatique pour passer à un deuxième, second dysfonctionnement administratif qui a eu trait à la mairie, cette fois de Saint-Denis. Ma mère est donc décédée, contact avec les pompes funèbres qui emportent avec eux le livret de famille. Et au retour du livret de famille, alors que ma mère n'est pas encore inhumée, je vois sur le livret de famille que mon père avait été déclaré décédé et non ma mère. Énorme dysfonctionnement administratif, je le vois immédiatement. Évidemment, j'étais sur place avec les pompes funèbres qui me disent « on va régler ce dysfonctionnement ». Et on me dit « écoutez, normalement, les personnes, le nom des personnes décédées part à l'INSEE, l'Institut National de Statistique ». Et donc, ils me disent « écoutez, la mairie de Saint-Denis, c'était un samedi, donc n'a pas envoyé le dossier à l'INSEE, donc tout est rectifié, on vous rectifie tout, pas de problème ». Bon, les choses se font pour l'inhumation de ma mère, et donc je garde ça dans un coin de ma mémoire. Mais de mon côté, je procède à tous les éléments administratifs à effectuer suite à un décès. La succession même se met en route. Et un mois après, mon père cherche à se connecter à ses comptes bancaires, enfin et surtout retraite et sécurité sociale. Et là, il me dit « je ne peux plus me connecter sur Internet ». Alors là, je commence à avoir un doute. Et quand mon père contacte les services concernés, retraite en particulier, on lui dit « Mais écoutez, vous êtes décédé ». Donc en fait, ce qui s'est produit, c'est que l'INSEE a enregistré ce qui n'avait soi-disant pas été fait ce fameux samedi avec la déclaration de décès de mon père à la place de ma mère. Eh bien, c'est un choc, d'une part, pour moi. Toujours est-il que j'ai repris tous mes courriers en recommandé avec accusé réception. Et là, la mairie de ma ville, donc de Soisy-sous-Montmorency, a dit « il vous faut des certificats de vie de votre papa ». Les certificats de vie, ça veut dire qu'il faut que vous prouviez en fait que vous êtes vivant et que pour chaque administration, il faut fournir un original. Donc vous présentez à votre mairie d'habitation avec votre pièce d'identité pour prouver que vous êtes vivant. Il faut savoir que ça faisait un mois que ma mère était décédée, que mon père, sachant pseudo-décédé, c'est aussi un choc. Là, je comprends qu'on est rentré dans une machine infernale administrative. C'est-à-dire qu'il va falloir prouver à tout le monde que mon père est vivant. Vous êtes déclaré décédé, donc il faut prouver à chaque administration, à chaque service, que vous êtes bien vivant pour pouvoir récupérer vos droits. Donc du coup, on se dit, au fil du temps, ça va se calmer. Le temps passe et puis au bout de 3 ans, vous vous dites c'est fini quoi. Enfin voilà. Et puis un jour, un ami de mon père l'appelle et lui dit dis donc, j'ai repéré sur internet que tu étais décédé. En fait, il repère ce fait en allant sur internet, en tapant son nom, et il trouve qu'il est décédé le 12 septembre 2017, c'est-à-dire la date du décès de ma mère. Le second effet, j'ai envie de dire aussi, c'est que mon père se présente au bureau de vote pour exercer son devoir de citoyen en 2019. Le président du bureau de vote lui dit qu'il n'est plus inscrit sur les listes électorales. Donc il ne peut pas voter, hormis contacter le sous-préfet en urgence pour pouvoir voter. En revanche, ce qu'il constate, c'est que ma mère est toujours inscrite sur les listes électorales, bien qu'étant décédée en 2017. Ma mère, décédée déjà depuis 2 ans, était considérée toujours en vie et lui n'existait plus. Et à ce moment-là, je m'interroge à nouveau de savoir si les rectificatifs ont bien eu lieu. C'est un peu comme une enquête policière, en fait. Quatre ans après, mon père, psychologiquement, est toujours très touché. Il commence à faire un blackout total sur tout ce qui s'est passé, parce que ça devient trop lourd, et psychologiquement, il est un peu enfermé dans cette affaire. Il finit par me dire, écoute, quand je décéderai, puis voilà, quoi. J'aimerais vraiment que cette erreur administrative soit rectifiée avant son décès. Suite aux nombreuses requêtes que j'ai faites, j'ai envie de dire qu'administrativement, il a accès à tout aujourd'hui. Enfin, nous sommes quand même 4 ans après, ce serait dramatique que au jour d'aujourd'hui, il n'est pas de retraite. Il a accès à tout, sauf qu'il y a toujours des scories d'erreurs. On l'a vu aujourd'hui sur Internet. Je reste persuadée, bien que n'en ayant pas la preuve, que les choses n'ont pas été réglées sur le fond au niveau administratif, c'est-à-dire la reconnaissance du décès de ma mère, certes, mais la reconnaissance de vie de mon père. J'aimerais juste que cette situation se résolve et j'aimerais juste pouvoir faire prendre conscience que nous ne nous résumons pas à une statistique, même si les statistiques de l'INSEE sont très utiles, mais que derrière chaque numéro, il y a un être humain. Pouvoir parler à des gens plutôt que d'envoyer des mails, ça serait bien, je crois.
Je m'appelle Marie R. Mon mari et moi, nous nous sommes rencontrés en 2009. Mon mari avait donc une sclérose en plaques, mais il marchait, il tenait debout, il conduisait, il marchait pas très bien. Mais il était valide, il était en rupture de contrat de travail. Après ça, il a eu une intervention et il est allé voir un professeur. qui lui a proposé une opération, une stimulation thalamique. L'opération qui était conçue pour arrêter les tremblements. Parce qu'en fait, il avait des tremblements dans le bras gauche qui forçaient à... Il n'arrivait plus à attraper un verre, il n'arrivait plus à se servir du bras gauche. Et malgré tout, elle a échoué. L'opération a échoué. Quand je me suis rendu compte que l'opération avait échoué, j'étais dans le déni. Je me disais, c'est pas possible, ça va s'arranger. Je pouvais pas y croire. Bon, ben, il travaillait plus, bien sûr. Il commençait à plus pouvoir rien faire. Les deux membres étaient touchés. Bon, il était en fauteuil roulant. Il peut pas manger tout seul, il peut pas boire tout seul, il peut pas même pas toucher la télécommande, changer les chaînes. Il ne peut absolument rien faire, voilà, rien. Rien du tout. Là, il est dans le canapé et la seule chose qu'il puisse faire, c'est regarder la télé, c'est tout. On s'est battu 14 ans parce que mon mari, il a une sclérose en plaques. 14 ans. Ça a été reconnu. Il a eu la sclérose en plaques suite au vaccin de l'hépatite. C'était en 2001, il est allé voir son médecin pour un vaccin de BCG ou de je ne sais quoi. Et son médecin, médecin de campagne, lui a dit « Bah, écoute, il y a une campagne pour le vaccin de l'hépatite B », mais sans lui dire tout ce que ça pouvait engendrer. Et trois semaines après, il avait des fourmis, il titubait, enfin lui, ça a été évident. Et donc, ça a été décrété qu'il avait une sclérose en plaques. Depuis que je suis avec lui, il a commencé à faire ce dossier. Alors, il a fallu en faire, je ne vous dis pas, des expertises, des papiers, des photocopies et tout. Et donc, Sanofi s'en est tiré tout de suite, bien sûr. Vous battre contre Sanofi, c'est se battre contre... Donc, on dit non, c'est bon, on arrête. Puis, on n'en parle plus, je ne veux plus en parler. Ça a été, mon mari faisait des dépressions à chaque fois. Il y a eu des tas de courriers échangés. Oh là là. L'an dernier, j'avais trouvé une structure à l'hôpital Eugène Jameau à la Souterraine pour 5 jours. Mais quand je l'ai récupéré, il avait une déshydratation, une dénutrition. Mais c'était pas normal et tout. J'ai déposé plainte. Malheureusement, ils ont toujours raison, ces gens-là. Je suis renvoyée d'un endroit à un autre, et ainsi de suite, et ça dure et perdure depuis tout le temps. Tout simplement parce que ce serait remettre en question le système hospitalier. Et c'est pour ça que moi, il n'y a pas que moi, et tous les gens qui sont dans mon cas se fatiguent, ils s'usent de réclamer et d'essayer de faire valoir leurs droits. Là, je sais que je ne peux plus. Mais pourtant, je voudrais obtenir justice. Je suis... pas bien aujourd'hui parce que je suis dans ce bureau et qu'il y a tous ces papiers et que je voudrais tout brûler, mais je me dis non, il y a peut-être encore une chance, un espoir. Oui, c'est une pièce de ma maison que je veux plus voir parce que tous ces dossiers, tout ça, on perd tout de toute façon. On n'a jamais rien gagné. Tous ces procès qu'on a faits qui étaient justes, qu'on aurait dû gagner, qu'on doit gagner. Mon mari qui était dans un hôpital, on devait le soigner. Le médecin se devait de le soigner, non? C'est pas normal. Et ça, je suis obligée de le laisser tomber alors que je vous jure que j'étais une battante. Mais quand je me vois dans cet état que je suis là, je suis usée. J'ai mon mari qui peut rien faire, qui peut même pas... S'il veut changer de chaîne, si je suis pas à côté, il est obligé de m'appeler au téléphone. Il peut plus bouger d'ici. On n'a pas d'espoir, on n'a pas de vie, on n'a plus. J'attends qu'une chose, moi j'attends la mort. Tranquillement, j'attends la mort. Et qu'elle vienne vite. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Culture. Les pieds sur terre.
D'un seul coup, on me demande à moi aujourd'hui, pour renouveler les papiers d'identité que j'ai depuis 45 ans, on me demande à moi des papiers prouvant le lieu de naissance de mes parents. Donc je considère, je me suis d'un seul coup vu comme un citoyen de seconde zone. Le fait qu'on n'était pas né en France signifiait qu'on était des escrocs, qu'on avait trompé l'administration française pendant 45 ans en leur racontant des histoires. Si vous assassinez, vous, demain, quelqu'un, on ne vous recherche pas au bout de 30 ans, bon, il y a prescription. Là, il n'y avait pas prescription du tout. Il fallait que je prouve que mes parents étaient bien mes parents, qu'ils étaient nés quelque part et où je pouvais les trouver. C'était vraiment quelque chose d'horrible. Bon, alors, je vous présente Madame Aura Adler, née Levental, elle est née à Berlin.
Mon mari, Jean Adler, né à Varsovie, et qui était représentant de commerce hein, quand il était en activité, et qui est aussi peintre, dessinateur.
Donc, quand on est allé pour les papiers, on nous donne un formulaire disant quels sont les papiers qu'on doit amener pour renouveler nos papiers d'identité, livret de famille, acte de naissance ou livret de famille. On a un livret de famille. Sur le livret de famille, comme sur tous les livrets de famille, il est indiqué le nom de nos quatre parents et leur lieu de naissance. Mais ce n'est pas prouvé. On doit maintenant prouver où sont nés nos parents, comme si ça avait quelque chose avec notre identité. Donc, il nous est impossible de prouver où sont nés nos parents, puisque autant à Vilnius qu'à Varsovie qu'à Berlin, les archives ont été détruites. Bon, donc, à partir de là, on écrit à Nantes qui nous répond « Vous ne figurez pas sur nos registres. On vous délivre un substitut d'acte de naissance. Il faut que vous nous envoyiez un acte de naissance. » J'ai pris une plume, j'ai envoyé une lettre incendiaire. Du coup, on m'a répondu par deux canaux différents. Parce qu'il faut savoir que Nantes appartient au ministère des Affaires étrangères. La carte d'identité vous est délivrée par le ministère de l'Intérieur. Et comme l'un ne sait pas ce que fait l'autre, on a reçu chacun quatre questionnaires complètement différents. Mais finalement, dans notre malheur, on a eu la chance, à part mon père qui a été déporté et où on a eu un certificat de disparition, nos trois autres parents sont morts en France. Donc on a pu envoyer des actes de décès.
Ça a duré combien de temps ?
7 mois. Bon, on commençait à s'énerver sérieusement et un jour, on est au Vaudeville, un des bistrots où on va, place de la Bourse. On est là et on voit des gens qui arrivent et qu'on entend parler de sans-papiers. Alors, on se lève, on dit « Écoutez, vous parlez de sans-papiers étrangers, alors on va vous présenter des sans-papiers français. » Alors, il y avait une jeune dame qui était là, qui était journaliste. Elle fait notre interview. L'interview passe sur Internet. Je ne sais pas s'il y a une cause à effet. En tout cas, 8 jours après, on était convoqués à la mairie, on avait nos papiers. Nous, ce qu'on voulait, c'était que ça se passe normalement. On avait droit au renouvellement de nos papiers. On est en France cette année depuis 70 ans. Et d'un seul coup, on n'est plus français ni rien. On était vraiment hors de nous. Hein. C'est vraiment la colère. Hein. Nous sommes donc arrivés en France en 1933 par des voies différentes. Aura été réfugié politique et moi réfugié économique. Donc nous arrivons en France et nous passons l'avant-guerre. Donc on a à subir la xénophobie plus l'antisémitisme. Xénophobie parce que pour les enfants des écoles, pour Aura, elle était une sale boche et moi, j'étais un sale polac pour commencer.
Moi, c'est vrai que moi, on m'a dit « sale boche, retourne dans ton pays », alors que j'étais réfugiée d'Allemagne. J'avais 5 ans et avec mes parents, on est arrivés clandestinement en France. Moi, cette partie de l'histoire, je l'ai complètement oubliée, c'est un trou, mais je me rappelle... J'ai un souvenir de mon arrivée en France à partir de la frontière. Mon père avait des papiers de réfugié provenant d'Allemagne. Oui, c'était des papiers indéterminés, sans nationalité, réfugié provenant d'Allemagne. Et à la fin, mon père était polonais. Alors moi, avant d'être française, J'étais polonaise. Mes parents sont d'une région de l'Europe qui a constamment changé de main avant d'être en passant par la Pologne et avant d'être actuellement ukrainienne. Donc, vous voyez, demandez-moi de quelle origine, c'est un peu compliqué.
Et quand est-ce que vous avez obtenu la nationalité française ?
En 1955.
Moi, je suis arrivé en France en 1933, mais je venais rejoindre mon père qui était déjà là depuis 1931. Donc, je suis arrivé à Paris et j'ai dit bonjour monsieur à mon père que je connaissais à peine. Donc, nous sommes arrivés à Belleville où il n'y avait pratiquement que des Juifs de l'Europe centrale avec des Arméniens et des Turcs. Quelques Italiens et à peu près, il devait y avoir un Espagnol ou deux. En gros, c'était sur une classe de 45 élèves parce que nous étions 45 à l'école de la rue Ramponneau. Il y avait pratiquement 9 dixièmes de métèques et un petit dixième de Gaulois qui garnissaient le fond de la classe. C'était les moins doués. Bon, donc, sur les 9 dixièmes de métèques, il y avait à peu près encore 9 dixièmes de Juifs d'Europe centrale. Malheureusement, sur ces Juifs d'Europe centrale, il en est disparu par la déportation pratiquement les trois quarts. Moi, je me voyais retourner à la préfecture quand on faisait la queue pendant des journées entières pour renouveler la carte accordéon, qui était les cartes de résident de nos parents, où on était obligé de glisser à l'intérieur des billets de 100 francs anciens. Je veux dire, ça représente pas grand-chose maintenant, mais à l'époque, c'était quand même de l'argent. Ou quand le certificat de domicile, c'était toujours accompagné d'un paquet ou deux de cigarettes pour le gardien de la paix qui se trouvait derrière le guichet. On s'est senti métèque. Donc on était, nous, des Français métèques. Parce que on ne peut pas comprendre que si on est Français, on est Français. C'est-à-dire qu'on a droit au même traitement que n'importe qui. On n'a aucune raison de nous demander où sont nés nos parents. Nos parents, ils sont... Oui, c'est-à-dire il faut amener des papiers officiels pour montrer d'où venaient nos parents. Et ça, franchement, ça m'a fait remonter. Mes parents, je les admire et je suis très fier d'avoir les parents que j'ai eus. On est fier de nos parents. C'est pas qu'on a honte d'eux, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on prouve qui étaient nos parents.
Si vous voulez, on a fait nos preuves en France. Le père de mon mari était engagé volontaire au début de la guerre. Mon frère était dans la résistance. Donc, on a fait nos preuves en France et brusquement, on nous dit non.
Nos parents parlaient le français avec un accent. Nous, on parle sans accent, ou tout au moins, on a l'accent de notre quartier. Mais on n'est pas gaulois, hein, ça c'est sûr. Bon, c'est sûr et on y tient.
Oui.
Je veux dire, on y tient, on veut pas... S'intégrer, ça veut pas dire s'assimiler. Hein. Donc on n'est pas gaulois et on y tient. Mais ceci dit, on est... Quand vous regardez Aura avec ses yeux bleus, elle était blonde et tout ça, et on n'est pas vraiment typé. Mais... On se sent français un peu différent, mais français. On n'est pas bourguignon, on n'est pas... Mais on se sent français. Et d'un seul coup, on se sent plus. Ce qui est vraiment stressant, ce qui fait mal, si vous voulez, c'est le fait que quand on vous attribue la nationalité française, bon, on peut le considérer comme un honneur, on peut le considérer comme une... Enfin, la façon dont on veut le considérer. Mais d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est pas définitif. D'un seul coup, on voit la fragilité de cette attribution. On s'aperçoit que on peut vous l'enlever quand on veut. Vous faites plus de partie des nôtres. Vous voyez ce que je veux dire ? On a vécu ça. On l'a vécu. Donc même après 45 ou 46 ans, ça fait remonter, et donc et ça fermente en plus. On a cette impression qu'on peut vous retirer cette nationalité.
Life is tough, but you have to keep on keeping on. Just keep on doing what you're doing and stay on a righteous path.
Just keep on doing what you're doing. You ain't got time, man. You're losing control of what you're doing. So many cruising, far out bruising. Lose your mind from the things that you're doing. When you get up in the morning till you come home from work, your head is steady throbbing from the business of the jerk. And if it ain't got no heart, man, it ain't got no soul. I couldn't put up with it for all the money in the world. And if it's money that makes the world go round, I'm packing up my things, I'm headed out of town. So keep on doing what you're doing. You ain't got time, man, you're losing control of what you're doing.
C'était Embrouille administrative, un reportage d'Alain Lefkovitch et Yaël Mandelbaum, réalisé par Vincent Abouchard avec Marie-Ange Garandeau. L'attaché de production des Pieds sur Terre, ses os est coupé. Et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
Yesterday, put a smile on your sad face. When you walk out the door and you can't take no more, everything bringing you down, and they look at you strange, like you're a mistake, so you just turn around. But sometimes, don't you wish you were invisible? Still be here, but hidden to the world. You can be whoever you want, and no one's gonna judge you, and you ain't got nothing to prove. Don't you wish you were strong?